De ce passage de tiré de l'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 14. S'agira de parler de la loi, et en gros, il s'agira d'une guerre, loi contre loi, et de voir comment Dieu nous donne la victoire, la mort sur le péché. Romains chapitre 7, au nom du Seigneur Jésus, à partir du verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, dit l'apôtre Paul, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. De faire le bien, pardon. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Jusqu'ici donc, la lecture de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais tout à l'heure qu'il s'agira d'un combat loi contre loi, mais surtout comment avoir la victoire sur le péché, sur nos péchés. Vous savez que Dieu prend au sérieux le péché. Dieu prend au sérieux le péché. Voilà pourquoi il a en quelque sorte inventé le salut. La Bible aurait pu s'arrêter au chapitre 2 du livre de la Genèse. N'eût été le péché, évidemment. Et le chapitre 3, quand le péché fait une éruption, ça donne lieu donc à tout ce que nous avons comme Bible, la suite jusqu'à l'Apocalypse. Chapitre 3 de Genèse est un chapitre très important parce que c'est avec l'arrivée du péché que voilà, nous avons tout ce que nous avons en main comme Bible. Donc Dieu prend au sérieux le péché. Lorsque quelqu'un se trouve lié en quelque sorte à un péché particulier, on a souvent du mal à imaginer qu'un jour, il abandonnera ce péché. Il n'aura plus de lien en quelque sorte avec ce péché. Alors, comment parvient-on à se libérer d'un péché devenu une habitude profondément ancrée dans une vie? Une chose est sûre, ce n'est pas en appliquant des règles religieuses. Nous avons déjà vu de quelle manière les lois peuvent en réalité susciter le désir de pécher. L'idée selon laquelle il faut se protéger du péché en se conformant strictement à des règles est l'arme secrète du péché contre le chrétien. Les lois incitent toujours au péché. Quand nous saisissons vraiment qui est Jésus en nous, quand nous saisissons réellement qui est Jésus en nous et qui sommes-nous en lui, nous découvrons que les péchés sans lesquels nous ne pouvions pas imaginer vivre en quelque sorte perdent leur attrait à nos yeux. La victoire ne se remporte pas en luttant contre le péché, mais elle se remporte en nous attachant à Jésus. Jamais nous ne remporterons la victoire sur le péché par la seule force de notre détermination et de notre autodiscipline. Ce type de motivation, entre guillemets, négative, nous empêche de fixer les yeux sur Jésus, car nous restons alors absorbés par notre péché. C'est sur Jésus que nous devons fixer notre attention, pas sur le péché. Plus notre amour pour Jésus s'approfondira, plus notre amour pour Jésus s'enracinera, moins ces péchés auxquels nous étions tant attachés seront attrayants à nos yeux, jusqu'au jour où nous allons réaliser avec joie que nous ne pratiquions plus ces péchés. Croire que c'est en nous efforçant de vaincre le péché que nous aurons la victoire, c'est aborder le problème complètement à l'envers. Non seulement nous ne remporterons pas la victoire en fixant notre attention sur la chair, mais pire encore, cela entretiendra notre défaite. Le légalisme s'attache toujours au comportement. Quand la grâce règne, c'est sur Jésus que nous fixons notre attention. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, au verset 5 à 6, il est écrit ceci. L'apôtre Paul dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux dons de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Dans ce verset, l'apôtre Paul affirme qu'en définitive, le comportement de l'homme est déterminé par ce qu'il affectionne, par ce qu'il aime. Donc, ceux qui aiment, par exemple, le foot, ceux qui s'affectionnent au foot passent généralement leur week-end devant la télévision à regarder des matchs ou sur un stade à jouer avec des amis. Et celui qui n'a pas d'autre idées en tête que de pratiquer, par exemple, la pêche à la ligne, il ne tardera pas à faire un projet d'acheter une canne à pêche. De la même manière, celui qui fixe son attention sur un péché quelconque ne devrait pas s'étonner le jour où son comportement finira par épouser ce qui occupe constamment son esprit. Celui qui décide de vaincre le péché en concentrant son attention sur ce dernier crée en quelque sorte les conditions pour son échec. Il aura beau demander à Dieu de venir à son secours, cela n'y changera rien. Il faut savoir que Dieu ne nous a pas aidés à vaincre le péché avant notre conversion à Jésus-Christ. Et ce même Dieu ne va pas se montrer davantage prêt à bénir en quelque sorte nos efforts pour nous libérer du péché une fois après notre conversion. Il veut, pardon, nous aider. Il veut nous aider à prendre conscience que nos efforts sont inutiles, afin que nous puissions fixer nos regards, notre attention sur Jésus. Tant que nous essayons d'obtenir la victoire sur le péché par notre comportement, il attendra. Dieu attendra patiemment jusqu'à ce que nous ayons épuisé toutes nos cartes. Puis, il accomplira à notre place ce que nous sommes incapables d'accomplir par nous-mêmes. C'est à ce moment-là que nous serons prêts à recevoir sa réponse. La manière de Paul d'aborder le péché à travers ce passage nous enseigne ceci. Pour savoir comment être libéré du péché, la première étape est de comprendre quelle devrait être l'attitude du chrétien à l'égard du péché qui est en jeu. En effet, parmi les chrétiens qui sont encore esclaves d'un péché quelconque, nombreux sont ceux qui croient, à tort d'ailleurs, qu'ils aiment ce péché. Ils partent donc du principe qu'il est absolument impossible d'être libéré de quelque chose qu'ils aiment. C'est le mensonge du diable en réalité. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui signifie que La vérité de Dieu a toujours un effet libérateur sur les hommes. Ce verset sous-entend que si la vérité libère, le mensonge, au contraire, a servi l'homme, le rend esclave, à tel point que si un chrétien est lié d'une manière ou d'une autre, c'est qu'il croit un mensonge quelconque. Par contre, lorsqu'il connaît la vérité, il découvre pleinement la liberté. Dans Romains 7, l'apôtre Paul décrit sa relation avec le péché. Il confesse, mais vraiment avec honnêteté, qu'il péchait. Alors, je me réjouis en quelque sorte qu'il ait été honnête sur ce point. N'oubliez pas que vous êtes le seul à lutter contre tel ou tel péché personnel. L'homme qui a écrit la plupart des livres du Nouveau Testament reconnaît ouvertement avoir vécu des jours de combat, mais vraiment des jours de combat acharné contre le péché. Il dit que même s'il péchait, effectivement, mais rien en lui n'aimait le péché. Il pêche, mais rien en lui n'aime le péché. Il dit, il indique, pardon, dans cette section, que la position qu'il avait envers son péché, il indique, pardon, dans cette section, la position qu'il tenait envers son péché personnel. Après avoir décrit son combat vis-à-vis du péché, il va dire au verset 24, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? L'apôtre Paul a connu la détresse morale à cause du péché. C'est l'état dans lequel finit par se trouver tout chrétien vraiment qui lutte contre le péché, la détresse morale. Pour pouvoir être délivré de l'emprise du péché, il est important de bien prendre conscience de l'attitude à avoir réellement à son égard. Ne jamais commettre l'erreur de croire qu'on aime le péché. Tout simplement parce qu'on constate qu'on n'arrive pas à s'en passer et qu'on y trouve du plaisir. La Bible enseigne que le péché en lui-même procure évidemment du plaisir pendant un temps, mais qu'il finit par avoir un goût amer dans la vie du chrétien. Certains ne comprennent pas qu'il soit possible de prendre plaisir au péché tout en l'ayant en horreur. S'il n'en avait pas horreur de son péché, on ne se trouverait pas en prise avec lui. Le fait d'y prendre plaisir ne dit rien de vous, mais montre simplement que le péché est quelque chose d'agréable. Tant que l'homme ne sait pas qui il est, il considère son comportement d'un côté et son identité de l'autre comme une seule et même chose. Cependant, la Bible enseigne clairement que lorsque le chrétien pêche, son péché ne traduit pas qui il est, mais son péché traduit simplement ce qu'il fait ou comment il se comporte quand il ne s'en remet pas à Jésus-Christ qui habite en lui pour animer sa vie. En décrivant son propre comportement de pécheur, Paul nous éclaire sur deux choses. Premièrement, il exprime combien il avait son péché en horreur. Ensuite, il fait une distinction très nette entre son identité, qui il est, et le pouvoir du péché en lui, son comportement. Il affirme à deux reprises, au verset 17 et au verset 20, que lorsqu'il péchait, ce n'était pas lui qui péchait, mais le péché qui avait en lui qui se manifestait. En affirmant cela, alors l'apôtre Paul n'essaie surtout pas d'échapper à sa responsabilité par rapport au péché. Il ne laisse pas non plus entendre, comme certains le feront, que c'est la faute à Satan, tout simplement. Il assumait pleinement sa responsabilité concernant le choix qu'il faisait. Il voulait simplement mettre en évidence que lorsqu'un chrétien pêche, cela est contraire à sa nature. Lorsqu'un chrétien pêche, cela est contraire à sa nature. Cela est contraire à sa nature divine, parce qu'il a reçu Christ en lui. Et Christ, par définition, ne peut pas pécher. Donc, lorsqu'un chrétien qui a Christ en lui pêche, c'est simplement contraire à sa nature. En parlant ainsi du péché, il indiquait qu'il y avait en lui une puissance qui n'était pas lui. Peu nombreux sont les chrétiens qui ont conscience qu'en chacun de nous existe une force qui nous pousse, qui nous attire en quelque sorte à commettre le péché. La Bible dit que cette force réside dans notre corps. Verset 23, « Mais je vois dans mes membres une autre loi, dit Paul, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. » Néanmoins, même si elle réside en nous, cette force n'est pas celle ou celui que nous sommes. Il nous faut avoir bien compris cela si nous voulons connaître la victoire. C'est le raisonnement de l'apôtre Paul. Il établit une distinction très nette entre lui et le péché qui était en lui. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi, dit-il. Est-ce que cela ressemble à une confession d'un homme mauvais, un homme qui aime le péché? Je ne pense pas. Paul déclare qu'il fait ce qui est contraire à sa volonté. Il explique que le désir de faire le bien est toujours présent en lui, même si ses actes semblent par moments indiquer le contraire. Cette situation fâcheuse peut ressembler à ce que l'on peut vivre. Peut-être en avez-vous conclu que vous êtes quelqu'un de mauvais, tout simplement parce que vous constatez que quelque chose en vous vous pousse, vous attire vers le péché. Cependant, cette tendance qui vous habite n'est pas vous, l'apôtre Paul, est en vous, mais ce n'est pas vous. Combien il est merveilleux, frères et sœurs, de découvrir que le chrétien n'est pas mauvais. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Sinon, comment Christ peut vivre en toi et que tu sois mauvais? Non, certes, il y a quelque chose de mauvais, justement, dans le chrétien, mais lui n'est pas mauvais, dit l'apôtre Paul. Paul décrit parfaitement notre situation en déclarant « Je trouve donc en moi une loi. Quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. » Il avait compris la différence entre la force qui représente le péché et son identité à lui. Il ne se considérait pas comme un homme mauvais, mais reconnaissait que le mal était présent en lui. Quand nous comprenons que nous ne sommes pas notre propre ennemi, nous faisons un pas décisif vers la victoire. L'ennemi, c'est bien évidemment le pouvoir du péché qui habite dans notre corps. Une fois que nous faisons la distinction entre nous et le péché qui est en nous, nous sommes en mesure de faire le pas suivant en direction de la victoire. Pour cela, il faut répondre. Il faut répondre à une question importante soulevée par Paul à propos du péché. Qui le délivrera de ce corps de mort? Qui? Alors, c'est intéressant parce que l'apôtre Paul n'a pas posé la question de savoir que puis-je faire, moi, pour connaître la victoire. Il n'a pas non plus prié en disant « Seigneur, comment puis-je avoir le dessus sur mon péché ?» Il a dit « Qui me délivrera ?» L'apôtre Paul avait compris que la clé ne se trouve pas dans un « que faire » ou dans un « comment faire ». Si nous voulons être victorieux sur nos péchés, il nous faut poser la bonne question. La clé de la victoire sur le péché est un « qui ». Il n'existe pas de plan, entre guillemets, ni de méthode qui permette à l'homme d'avoir la victoire sur le péché. La solution que Dieu a prévue pour nos péchés n'est pas un plan, mais la personne de Jésus-Christ. Le principe du péché qui habite en l'homme est une réalité dans la vie de chaque chrétien. Tant que nous vivrons dans notre corps physique, ce sera une force en quelque sorte avec laquelle il faudra compter. Toutefois, face au pouvoir du péché, Dieu nous a donné une solution. De même, Jésus-Christ. Après avoir longuement décrit le problème en Romains 7, l'apôtre Paul exprime très clairement cette vérité au chapitre 8, au verset 2. En effet, dit-il, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est une manière claire de formuler ce qu'il avait déjà formulé au chapitre 7, au verset 23, c'est-à-dire loi contre loi. La loi du péché et de la mort est toujours présente, cherchant à tout moment à inciter le chrétien à vivre dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Mais il existe une autre loi à laquelle le chrétien peut s'en remettre. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Cette loi prendra toujours la première, et évidemment nous plaçons notre confiance en Jésus, et Jésus ne manquera jamais de vaincre en nous la loi du péché et de la mort. Imaginez qu'on vous annonce un homme a sauté de la tour Eiffel. Telle image vous viendra spontanément à l'esprit. En tout cas, vous allez peut-être vous poser toutes sortes de questions sur l'incident, mais il y a une chose que vous ne demanderiez certainement pas. S'il est tombé, vous partirez du principe que l'homme est tombé en raison de ce que vous savez, de la loi de la pesanteur. C'est en effet une loi universelle à laquelle tout le monde est soumis. Si vous sautez d'un immeuble, vous allez tomber. Si vous jetez quelque chose, ça retombe toujours. Mais si on vous précisait ensuite que l'homme qui a sauté de la tour Eiffel était équipé d'un deltaplane, l'image que vous auriez alors dans la tête changerait aussitôt en raison de ce que vous savez d'une autre loi qu'on appelle la loi de l'aérodynamique. Avec cette information supplémentaire, vous n'allez plus imaginer cet homme en train de tomber, mais au contraire en train de s'élever, de planer au-dessus de la ville de Paris comme un avion. Même si vous connaissez la loi de la pesanteur, vous avez bien conscience que dans une telle situation, la loi de l'aérodynamique l'emporte sur celle de la pesanteur. Ce faisant, pendant que cet homme plane dans les airs avec son aile delta, la loi de la pesanteur n'a pas cessé d'exister. Elle existe toujours, mais c'est simplement que cet homme s'est appuyé sur une autre loi supérieure à celle de la pesanteur. Il en est de même pour le chrétien. Bien que le pouvoir du péché continue d'habiter en lui, la loi du péché et de la mort ne peut pas s'exprimer en lui tant qu'il s'en remet à la toute-puissance de Jésus-Christ. Chaque fois que nous nous confions totalement à Christ pour qu'il manifeste sa vie à travers nous, nous connaissons la victoire sur le péché. Cet homme n'a pas abandonné un peu la loi de la pesanteur pour adopter un peu la loi de l'aérodynamique. Non, il a abandonné totalement la loi de la pesanteur et il a mis totalement sa confiance dans la loi de l'aérodynamique. Nous ne connaîtrons la victoire sur le péché que si nous nous abandonnons totalement à la loi de l'esprit de vie, dit l'apôtre Paul en Jésus-Christ. Que va-t-il se passer? Si en plein vol, cet homme estime qu'il a envie de se passer de son véritable là, et à l'instant où il décide de le faire, la loi de la pesanteur va entrer en vigueur, en action, et il va immédiatement tomber. S'il choisit de se séparer de son aile delta, personne ne va s'étonner de le voir chuter. En fait, on n'en attendra pas moins. Le chrétien qui demeure en Christ et s'en remet à lui à chaque instant comme la source de sa vie connaîtra la victoire sur le péché. Par contre, dès l'instant où il décidera de fonctionner en se passant de Christ, évidemment, il tombera. Il n'y a pas d'autre alternative possible. Il n'y a pas d'autre solution intermédiaire. C'est aux chrétiens de choisir de vivre ou non dans une dépendance totale envers Christ. Quand notre manière de vivre est le fruit de la relation intime que nous avons avec Jésus, la victoire est l'expression naturelle de sa vie en nous. Malgré la force qui aurait tendance à nous tirer vers le bas, en tout cas, nous nous élèverons au-dessus du péché qui habite en nous, porté par l'amour de Dieu. Aussi longtemps que nous vivrons dans le corps physique qui est le nôtre actuellement, frères et sœurs, nous aurons à compter avec la présence du péché en nous. Par contre, si notre vie est placée sous le régime de la grâce, nous serons délivrés du pouvoir du péché. Bien sûr, Dieu nous laissera jouer dans la boue avec nos péchés, c'est notre poids. Néanmoins, je nous encourage à ne pas rester le nez collé sur un péché, mais à tourner notre regard vers celui qui se tient à nos côtés. Quand vous serez ébloui par sa lumière et ravi par le son de sa voix, en tout cas, ne vous étonnez pas de vouloir lui abandonner votre péché pour le suivre. Après avoir goûté à quelque chose d'aussi merveilleux, comment imaginer que l'on veuille un jour regarder en arrière? La victoire sur le péché ne se remporte pas par la discipline. La victoire ne se remporte pas en luttant contre le péché. Elle se gagne en nous attachant à Jésus-Christ. Autrement dit, la clé de la victoire sur le péché est un qui. Il n'existe pas de plan ni de méthode qui permette alors d'avoir la victoire sur le péché. La solution que Dieu a prévue pour nos péchés n'est pas un plan, mais la personne même de Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui s'en prennent. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est une histoire de loi contre loi. Et puisque Jésus a vaincu le péché et la mort, donc celui qui s'abrite en lui reçoit sa victoire, évidemment, et ne peut qu'être aussi vainqueur comme lui-même le Christ est vainqueur. Et l'apôtre Paul termine en disant: grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, je peux ajouter, et notre champion. Amen.
Amen.
Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est vrai que nous pouvons nous débattre contre un péché quelconque, ta parole nous enseigne ce matin que nous avons tout simplement à chercher la personne de Jésus-Christ. Cela est valable pour le péché, mais je pense que cela est aussi valable dans tous les autres domaines. Nous avons besoin de celui qui est sorti vainqueur du péché et de la mort. Nous avons besoin de celui qui nous a dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de ce Christ qui est mort, qui est ressuscité et qui est monté au ciel. Nous avons besoin qu'il s'exprime à travers nous, que sa vie se manifeste dans notre corps pour nous donner de marcher dans la victoire. Parce que lui-même, il est la victoire. Seigneur mon Dieu, mon Père, tu connais les péchés qui peuvent nous coller à la peau et pour lesquels nous avons du mal à nous en débarrasser. Mais l'apôtre Paul nous a enseigné que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Oui, Seigneur. que cette loi de l'esprit de vie en Christ prenne le dessus justement sur la loi du péché dans notre vie et nous marcherons en vainqueur pour la gloire de ton nom. Merci pour l'éclairage de ta parole. Merci pour le témoignage de ton serviteur, l'apôtre Paul, qui a connu cette détresse morale eu égard au péché. Mais merci parce que tu lui as donné la victoire, et c'est cette victoire que tu désires aussi nous accorder. Nous bénissons ton nom pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons chanter avec Dieu, nous ferons des écoutes. Et ensuite, nous écoutons les années.
Alors, lundi à 14h30, il y aura l'étude de l'épître de Jacques à l'église. Même si Jean est malade dans les Alpes, il y aura toujours cette étude de l'épître de Jacques à l'église. De 19h à 20h, il y aura la réunion de prière concernant l'Oasis à l'église. Du coup, il n'y aura pas d'études chez. Mardi, il y a la chaîne de prière pour la conversion des âmes dans nos familles et les deux passages bibliques qui ont été retenus pour le mois de février. C'est Matthieu 28, verset 19 et Éphésiens 4, 11 à 13. À 14h30, il y aura l'étude biblique à Genelos chez Annie Lambert. Bon mardi. Mercredi à 9h, il y a le groupe de maison à Genelos chez Hélène et Marc Genelos. À 14h30, il y a le groupe de maison à Aubagne chez Béa. À 20h, il y a le groupe de maison à Aubagne chez Christine et Jean-Pierre. Jeudi matin, à 9h30, il va y avoir une marche de prière, donc à la Quai des Chats, et rendez-vous à 9h30 à l'église. À 14h30, il y aura aussi l'étude de l'épître de Jacques à l'église. De 18h30 à 20h, l'étude biblique à l'église. Et vendredi de 7h30 à 9h, réunion de prière à l'église. 18h30 à 20h, répétition du groupe de louange. Samedi à 9h30, prière chez Mireille et évangélisation sur la place Bourgade. Dimanche à 10h, dans le culte à l'église et sur Zoom et partage de la Sainte Seine. Et tout à l'heure, nous avons une repas fraternel.
Merci Christine pour les annonces. Nous acheminons vers la fin de cette célébration. Je vous invite à prendre un temps de prière, un temps d'intercession. Et soutenir bien-aimés qui sont en train de difficultés, qui traversent des moments difficiles, pour prier pour ce monde qui manque de paix, prier pour la conversion des âmes. Tout ce que le Seigneur par son esprit vous mettra à cœur.
Seigneur, nous voulons te bénir pour notre frère Jean, afin que tu le rétablisses dans sa santé, pour qu'il puisse bientôt revenir chez lui. Nous voulons aussi te prier pour Rosine Desmonts, Seigneur. Assiste-la ainsi que sa famille dans ces derniers moments. Nous voulons te prier, Seigneur, pour les familles de notre Église, afin que tu les aides, que tu les bénisses et que tu mettes de l'amour entre les hommes et les femmes. Nous te prions tout particulièrement pour les jeunes et pour les enfants, pour qu'ils se tournent vers toi dès leur plus jeune âge, qu'ils soient sauvés. Protège-les des mauvaises fréquentations et des mauvaises habitudes. Nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons prié pour ce monde de tissus, pour pouvoir des liens, des familles, des parents, des parents, pour leur apporter toute l'humanité qui est en souffrance. Nous avons prié pour ce monde de tissus, nous avons prié pour ce monde de tissus, nous avons prié pour ce monde de tissus, pendant
l'Éternel, notre Dieu, notre Père, ta parole nous enseigne que tu as en horreur le péché. Te demandant ce matin de nous donner aussi d'avoir en horreur le péché sous toutes ses formes. Que tu nous donnes d'investir notre temps et notre énergie à la recherche de Christ qui est la solution au problème du péché de l'homme. Te rendons grâce à Jésus pour la victoire de la croix. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Et ça fait une importance à l'égard de l'histoire, pour ceux qui ne veulent pas avoir nous sommes avec les lumières dans nos familles et partout où nous sommes, pour qu'il y ait des révélations et pour qu'il y ait des âmes sauvées, un peu plus chères pour qu'il y ait.
Je vous invite à vous lever pour écouter quelques paroles dans le commandement, de l'éducation et au changement d'être éclairé à nouveau avec votre esprit. Ayant rencontré une humanité égarée et souffrante, Jésus a éprouvé de la compassion pour elle et souhaite multiplier son œuvre de salut à travers ses disciples. Il leur a dit dans Matthieu chapitre 10, au verset 8, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La logique de Jésus et de l'Évangile est toujours de recevoir pour partager, jamais accumulé pour soi-même. C'est là une invitation à reconnaître que nous avons reçu la grâce, frères et sœurs, et que nous devons la mettre au service des autres. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, et que la paix de Christ soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Avec ton esprit. Bon dimanche à tous et bonne semaine. Bonjour.